Alors que nous allons ouvrir la parole de Dieu et afin qu'elle puisse encore nous interpeller ce matin. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es celui qui est l'alpha, l'oméga, qui dit oui et amen. Nous voulons, Seigneur, être au bénéfice de ta parole, non pas simplement pour l'écouter, mais pour la mettre en pratique aussi. Nous te prions de nous ouvrir les oreilles ce matin. Et les oreilles de notre cœur, notre esprit. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Vous allez être surpris de la lecture, parce que c'est pas un passage qu'on prend souvent, même que j'ai jamais pris d'ailleurs. Il y a pour cela certaines raisons. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi. Alors, on va commencer le verset premier. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi. À tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Voyez-vous, donc déjà, le Seigneur loue les Corinthiens pour leur obéissance à la parole. Hein. Donc ça suppose que nous le soyons également. Je veux cependant que vous le sachiez. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie, qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se voiler la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les églises de Dieu. Voilà une chose qui est claire. Si quelqu'un conteste ce matin... Vous voyez, comme Paul, hein, il est très clair. Hein. Voilà. Pas de contestation. Donc voilà, point d'orgue, fini, j'ai raison. Je voudrais éclairer un peu ce passage suite aux enseignements que je vous ai donnés, justement la contraposition, pour vous montrer comment un passage difficile comme celui-là, qui est très... polémique, enfin qui amène la polémique dans les églises, hein, aujourd'hui encore, puisque certaines églises encore, je vous le signale au passage, plus maintenant, mais à une époque, quand on s'est installé ici, il y avait des femmes qui venaient, mais qui étaient enseignées selon une explication littérale de ce passage. Et quand ces femmes-là voyaient qu'il y avait certaines femmes qui osaient présenter les offrandes, ou encore pire, la scène, ou qui priaient, et partaient. Hein. Et aujourd'hui, ces femmes-là, ou ces hommes-là, enfin, qui font partie de ces églises-là, ne viennent plus. Hein. On est connu comme quoi on est hérétique, hein, de ce côté-là. Voilà. À cause de ce passage. Hein. Ces passages-là, on peut les prendre d'une certaine manière, avec un contexte particulier, et les comprendre d'une certaine manière. Donc j'aimerais vous montrer, grâce à la logique d'explication, donc vous pouvez le faire aussi dans les groupes de maison à la rentrée, comment un passage difficile, polémique, peut se simplifier à l'extrême. Très simple. Voyez, logique aidant, on comprend les choses très simplement. Donc j'espère y arriver, à la fin de ma prédication, que les choses soient simples pour vous. Une des choses qu'on apprend en école de théologie, c'est de mettre le verset dans son contexte. Parce qu'on dit qu'un verset hors de son contexte est un prétexte. Donc, un prétexte de, par rapport à nos jugements, par rapport aux préjugés, par rapport à un tas de choses, voyez, on a tous une idée, soit reçue, soit acceptée, soit personnelle, soit coutumière, soit toutes sortes de choses. La parole de Dieu, malheureusement, elle nous oblige à nous remettre en question. Et c'est ça le plus difficile pour l'être humain, de se mettre en question. Pourquoi ? Parce que ça enlève sa sécurité. On est tellement sûr, enfin sécure dans nos habitudes, qu'on ne veut pas en changer. Voyez ? Donc c'est très très difficile. Demander à des personnes de changer leur comportement, parfois ils sortent les griffes. Parce qu'ils ont une sécurité. Ne soyons pas comme ça, acceptons, comme Jésus le faisait, à être des disciples qui sont ouverts à recevoir la correction, c'est-à-dire le changement de notre mentalité pour nous conformer à sa parole. Donc c'est l'objectif de ce matin, pour vous expliquer ce passage de manière très simple. Ok ? Un des éléments du contexte, qui est très clair, c'est que Paul s'adresse à des chrétiens. Ok ? Donc cet enseignement s'adresse à des chrétiens. Cet enseignement, même s'il est vrai, parce que il y a la création, Dieu a créé toute chose bonne, c'est Genèse 1 et 2. À partir de Genèse 3, il y a chute. Il y a un renversement des choses. Milton, d'ailleurs, qui était un des sujets à l'examen d'agrégation que Michel a fait, il aimait beaucoup Milton, c'est un chrétien, et il expliquait que à la chute, tout a basculé, tout l'univers a basculé. Si vous voulez, il y a eu une conséquence sur tout l'univers. La chute a entraîné, y compris dans la création, un chaos total. Et c'est ce qui va se remettre en place quand Jésus va revenir. Toutes choses vont revenir dans l'ordre. Mais Dieu a prévu des choses qu'on ne peut vivre aujourd'hui que quand on est chrétien. Donc, il ne faut pas adresser ça, ce passage-là, à des non-chrétiens, ou en faire une règle de société, par exemple, vous voyez, parce que ça n'a pas de sens. Le sens, c'est quand quelqu'un est chrétien. Donc, ce sont les couples chrétiens, et pas les couples non-chrétiens. Ça rentre dans le cadre de la doctrine difficile de l'amour. Je vais rapidement passer les premières planches, où je vous ai montré au travers de cette étude qu'on peut, au minimum, disséquer l'amour, enfin la manière de voir l'amour en 5 facettes. La première facette, c'est l'amour à l'intérieur de la Trinité divine. La deuxième facette, c'est l'amour en tant que créature, dans le cadre de créature, donc non sauvée, c'est des créatures de Dieu. La troisième manière de voir, c'est l'amour en tant que créature rachetée. Donc c'est le plan B. C'est Dieu a prévu un nouveau plan. Ça s'appelle la rédemption. Nous sommes rachetés en Jésus-Christ. La quatrième manière de voir l'amour, c'est l'amour en tant que créature élue. Élue, c'est-à-dire nous sommes. Le rachat s'applique à nous parce qu'on l'accepte. Voyez-vous ? Le rachat est disponible. C'est comme vous, je vous dis, Ruben, il y a un chèque de 50 000 euros qui t'attend à la banque, mais si tu ne vas pas le chercher, il est là potentiellement, mais il ne t'appartiendra que lorsque tu iras le chercher. Voyez ? Donc le rachat, il existe, mais il faut aller le chercher. Ça s'appelle la foi. Et après, on est élu, on est adopté, enfant de Dieu. Et là commence un nouveau parcours, c'est le parcours du disciple auquel Jésus s'adresse. Et là, on devient des créatures amies de Dieu. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Et là, dans le cadre de l'amitié, l'amour s'exerce encore différemment. Vous voyez, vous n'allez pas aimer de la même manière quelqu'un qui passe dans la rue que votre conjoint. c'est normal. Ou quelqu'un que vous allez rencontrer aux Barbades ou aux îles Hébrides, ce peut être un ami, mais quelqu'un qui est dans votre famille, vous voyez, les relations sont différentes, l'amour se manifeste différemment. Ces cinq facettes de l'amour, la doctrine de l'amour, donc, sont tous vraies, elles se manifestent aussi par la foi différente. Les différents stades de foi. Dans le stade numéro 2, dans la facette numéro 2 de l'amour, la foi est évidente. Je vous renvoie au Romains chapitre 1er, où il est dit que la gloire de Dieu se voit à l'œil nu. En ce moment, au mois d'août, c'est connu, on voit les étoiles filantes. Donc si vous allez dans un endroit, pas à Paris, ou même en Bergenville, il faut aller à des endroits où il n'y a pas trop de lumière, vous pouvez voir le ciel extraordinaire, et vous pouvez voir les étoiles filantes. Vous pouvez voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est évidente. Personne ne peut nier la gloire de Dieu. Tout le monde la voit. Donc ça, c'est la première foi évidente, la nature. La deuxième foi, dans le plan B du rachat, c'est la foi révélationnelle. C'est-à-dire, on reçoit une révélation comme quoi, effectivement, Dieu est venu nous sauver, et c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et là, on comprend le salut. Ça, c'est une foi qu'il faut rechercher pour entrer dans le royaume de Dieu. Ensuite, il y a la foi expérimentale. Il faut expérimenter l'amour de Dieu. Il faut rencontrer Jésus. Il faut une rencontre comme Zachée, comme la Samaritaine. Ça, c'est une foi expérimentale, mais c'est une foi d'enfant. Quand on commence à expérimenter Jésus, je me rappelle, il y a plus de 40, je ne sais pas combien, que j'ai rencontré Jésus, c'était extraordinaire, extraordinaire. À l'âge de 20 ans, j'ai rencontré Jésus, alors que je l'aimais avant, mais bon, là, je l'ai rencontré. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est une foi magico-religieuse. Quand on est enfant, vous voyez, ceux qui ont des petits-enfants, vous le voyez, les enfants sont en admiration devant vous, parce que ils vous demandent du lait, la mère donne du lait, ben c'est formidable. Le père, on lui demande quelque chose, ben ça vient tout seul, tac, 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 voilà, c'est des dieux, quoi. Les parents, c'est des dieux. C'est magico-religieux, quoi. Et c'est magique. Et dans le domaine religieux, le chrétien qui est enfant, qui démarre sa foi, il est dans le magico-religieux. Le problème, c'est que ceux qui veulent rester dans le magico-religieux, comme on fait, ils veulent que toute la vie, ça continue comme ça. Voilà, ils demandent, hop, ils reçoivent. Ils demandent, ils reçoivent. Voilà, tac, tac. Mais ils n'ont pas de devoir. Ils n'ont que des droits. Ils ont le droit de recevoir, d'être bénis, mais ils n'ont pas de devoir. Alors Jésus veut aller plus loin avec nous. Et c'est nous donner, par le discipulat, il veut donner une foi mature. Parce qu'il ne veut pas simplement des petits robots, des petits enfants là qui prennent qui comme les petits oiseaux qui mangent tout ce qu'on leur donne. Il veut des vis-à-vis, il veut dialoguer avec nous, et pour ça il veut nous rendre matures. Il veut qu'on devienne adulte. C'est pas facile de devenir adulte, parce qu'il y a des responsabilités et on n'aime pas les responsabilités, parce que ça coûte, parce qu'il faut s'impliquer, voilà. Mais c'est ce que le Seigneur il veut. Il veut qu'on devienne adulte. Donc c'est une foi, une relation d'adulte, une foi mature, et comme le dit Poujol, une foi générative. Mais on reviendra sur les étapes de foi une autre fois. Alors dans le cadre de la doctrine de l'amour, donc de ces cinq étapes, le disciple est soumis à une logique. Si alors. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure à Marie-France. Si alors. À chaque fois que vous rencontrez « si alors », ça s'adresse aux disciples. Ça ne s'adresse pas aux créatures, ça ne s'adresse pas aux personnes rachetées, ni aux élus. Ça s'adresse aux amis. « Si alors ». Donc, ne confondez pas tout. N'essayez pas d'évangéliser avec ces versets-là. C'est pour des disciples, même avec des enfants. Des chrétiens enfants, ce n'est pas la peine. La Bible dit « ne t'adresse pas à un sot ». Sot, ça veut dire quelqu'un qui est déraisonnable, qui pense que là, sa foi magique, ça suffit. Ne pense pas à un sot, parce qu'il se retournera contre toi. Voyez, donc, c'est même pas la peine de s'adresser à un sot, un chrétien sot, parce que il comprend pas et il ne veut pas comprendre. Donc, il est soumis à une logique, si alors. Car Dieu veut des êtres intelligents. dis à ton voisin, tu es intelligent, tu es intelligente. Hein? Voilà. Et Dieu veut des êtres qui sont intelligents, c'est-à-dire qui réfléchissent. Hein? Qui réfléchissent à ce qu'ils font. Hein? Mais aussi libres, mais aussi responsables. Vous voyez? Intelligent, libre, responsable, ça fait beaucoup de choses, ça. Mais c'est une personne, ça, la personne humaine. Et Dieu veut des êtres comme ça à ses côtés. Voilà, il aime, non pas des robots, il aime des gens comme ça, et il veut cette compagnie. Et c'est ce qu'étaient Adam et Ève avant la chute, dans son propre royaume. Et cependant, on constate que cette logique, donc du si alors, conduit à des équivalences entre des opposés. Alors c'est là que le problème commence, c'est-à-dire qu'on constate, quand on analyse le si alors, eh bien, qu'on est en face des opposés. Ah, il faut faire des opposés. Et c'est pour ça que c'est difficile d'être adulte. Voyez, parce que Dieu nous met en face de faire des choses qui sont opposées. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose d'un verset qui parle de ça? Je teste votre manière de suivre le message. Est-ce qu'il y a un verset qui vous a frappé, qui est un peu difficile à comprendre? Et pardon? Oui, alors ça, tu expliques aussi alors. Il y a un verset qui dit, c'est dans Galates, je crois, je n'ai pas la référence exacte, c'est que si tu veux faire la volonté de Dieu, par la chair, tu ne peux pas y arriver. Vous voyez, avec les meilleures volontés, si vous voulez suivre Dieu, vous ne pouvez pas. C'est ça que dit le verset. Parce que la chair est contraire à l'esprit. Et l'esprit est contraire à la chair. Et Dieu le veut comme ça. C'est-à-dire qu'il veut qu'on ne puisse pas le suivre par la chair. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la chair, elle est pécheresse. Donc il faut marcher par l'esprit. C'est le premier cours du torrent qui purifie. Marcher par l'esprit. Et vous ne succomberez pas à la chair. Et c'est à cause de ça. Parce que les opposés, on ne peut pas. Si on essaye de suivre les si alors par la chair, on ne peut pas. On ne peut pas. Et Dieu l'a voulu comme ça. Vous voyez, c'est pour ça, ne cherchez pas. Hein, c'est pas possible. On reverra ça tout à l'heure. Ce qui ne facilite pas donc la marche du chrétien. On va prendre quelques exemples. C'est des exemples qu'on a pris dimanche dernier. Donc, ceux qui veulent suivre le message, il est sur Internet. Dans Matthieu 16, verset 24, il y a les affirmations de Jésus pour devenir disciple. Quelles sont ces affirmations? Jésus affirme en disant « Si quelqu'un veut venir après moi, alors qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ça, c'est ce que Jésus dit à ses disciples avant de les quitter. Et c'est un peu comme un testament, quelqu'un qui va mourir, qui réunit ses enfants. Jésus l'a fait à Philippe de Césarée, Césarée de Philippe, pardon, et il leur a dit ça. Le contraposé, c'est simplement une astuce. La contraposition, c'est juste une astuce pour mieux comprendre, pour mettre les points sur les i, comme on dit. Hein, parce que en termes négatifs, c'est pas une autre façon de transformer le verset. Attention, hein. C'est pour ça que je disais Marie-France tout à l'heure, c'est juste de la logique pure. Hein, donc c'est très simple. Vous mettez du nœud dedans. Si quelqu'un ne renonce pas, voyez-vous, on a mis ici, si quelqu'un renonce, ouais, qu'il renonce, vous mettez un nœud devant. Et vous mettez un nœud ici, voilà. Donc si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, ne porte pas sa croix, alors il ne veut pas. Si quelqu'un veut, il ne veut pas. Vous voyez, vous mettez juste un nœud, moins, moins. Vous voyez, c'est ça. Et ça, c'est vrai. Une contraposée d'une affirmation est toujours vraie, toujours. Donc voilà, vous pouvez mieux comprendre ce que Jésus veut en tant que disciple. Si quelqu'un ne renonce pas, ne porte pas sa croix, il ne veut pas venir. C'est pas qu'il ne peut pas. C'est ça qui est important, c'est que dans ce verset-là, les points sont mis sur les i. C'est la volonté de la personne qui n'est pas engagée. Hello? Vous me suivez? Oui. C'est pour ça, moi en tant que pasteur, j'utilise cette compréhension pour voir où en sont les chrétiens. Hein. Et je sais que ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Okay, donc on ne se fait pas d'illusions, on attend jusqu'à ce qu'ils veulent. Matthieu 16, 25. Ah oui, parce qu'on ne manipule pas les gens. Les gens sont libres. Matthieu 16, 25. Les affirmations de Jésus à propos de la vie. Alors, cette affirmation, la voilà. Mais celui qui voudra trouver sa vie, la perdra. Ça, c'est une affirmation. C'est la suite du verset précédent, hein, c'est 16, 25. Mais celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Alors, contraposé très simple, vous mettez un nœud là et un nœud là. Alors, ou nœud ou pas, hein, c'est pareil. Si quelqu'un ne perd pas sa vie, alors il ne la trouvera pas. Voilà. S'il ne perd pas, il ne la trouvera pas. Donc, c'est obligé qu'il faut perdre sa vie. Attention, ce n'est pas des chrétiens, c'est des chrétiens adultes, là, hein, c'est des amis. Hein. Les chrétiens enfants, ils ne peuvent pas appliquer ça. Hein. Donc, vous laissez passer, hein, les enfants. Mais là, je m'adresse à des disciples, c'est adressé aux disciples. Donc, si quelqu'un ne perd pas sa vie, eh bien, il ne la trouvera pas, c'est tout. Donc, vous voyez, la perte de la vie, c'est une imposition pour un disciple pour trouver sa vie. Verset 25b, dans le même verset, dans la même phrase, Jésus dit « Si celui qui perdra la vie, à cause de moi, la trouvera. » Alors, pour mieux comprendre, en tout cas, moi je comprends mieux, hein, je ne sais pas comment vous êtes, moi je comprends mieux ici. « Si quelqu'un ne trouve pas, voilà, la trouvera, ne trouve pas la vie, alors il n'aura pas voulu, vous voyez, il ne la perdra, il n'a pas voulu la perdre à cause de moi. » C'est pareil. Il y en a qui disent, oui, je trouve pas la vie, j'ai pas la vie, je sens pas l'amour de Dieu, etc. Ben parce que tu veux pas. C'est tout. Si tu veux, elle est à ta portée. Celui qui cherche, oui, oui. Vous voyez, c'est l'exemple de Jésus. Donc la vie, on la trouve d'une part en perdant sa vie, et s'il ne la trouve pas, c'est qu'il n'aura pas voulu la perdre. Voilà. Point barre. Très simple. Vous voyez, c'est pour ça que devenir adulte, c'est pas facile. Disciple adulte, on peut avoir une foi d'enfant, c'est très bien, et les églises sont remplies de foi d'enfant, de magico-religieux, tout ça, mais le problème, c'est que ça conduit à des syncrétismes. Ça s'appelle les églises de multitude. L'église catholique en est remplie. Il y a des millions de gens qui sont comme ça. Bon, ils aiment Jésus, voilà, mais voilà, ils sont dans le magico-religieux. Donc, il y a une équivalence. Alors, par rapport au verset 24 précédent, il y a juste ça, c'est-à-dire il y a juste le contraposé qui explique. Mais ici, il y a une équivalence entre trouver et perdre. Vous là, c'est un pas de plus. Bon, en mathématiques logiques, on appelle ça des équivalences. Trouver est équivalent à perdre la vie. Vous voyez ? Alors, on va l'appliquer. Alors, attendez. Je ne sais pas où j'en suis là. Les affirmations de Jésus. Ah oui, alors il y a Jean aussi. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, alors vous obéirez à mes commandements. Ça, c'est aussi un verset que Jésus donne à ses disciples. On le contrepose. Si vous n'obéissez pas à mes commandements, alors vous ne m'aimez pas. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de dire que vous m'aimez. Ça ne sert à rien, je ne crois pas. Vous voyez ce que Jésus dit. Il dit, le jour où je vous vois appliquer mes commandements, pratiquer ma parole, je vois que vous m'aimez. Sinon, c'est des paroles. C'est des paroles. Vous voyez. Et il y a beaucoup de chrétiens qui disent des paroles. Hein. Mais observez-les. Si vous voyez qu'ils ne mettent pas en pratique, ils n'aiment pas Jésus. Ils disent qu'ils aiment Jésus. Mais c'est du mensonge. Hein. On est dans le mensonge. Dans Jean, dans le même déroulé, donc quelques versets plus loin, et c'est quelque chose qui se tient, hein, je ne lis pas l'ensemble du passage, Jésus dit, si vous obéissez à mes commandements, alors vous m'aimez. Allô ? Si on contrepose, si vous ne m'aimez pas, alors vous n'obéissez pas à mes commandements. Voyez-vous, cette façon de présenter, c'est à nouveau une équivalence. C'est-à-dire, mathématiquement, logiquement, on conclut une équivalence entre aimer et obéir. Les deux, voyez-vous, sont opposés. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, un disciple est face à une logique d'opposé. Et comment est-ce qu'il fait ? Comment est-ce qu'il fait pour aimer et obéir ? Ben voilà, c'est ça la difficulté du chrétien mature. Alors, on va venir à notre passage de Paul. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous aider à comprendre facilement un passage qui fait polémique. Comme je disais tout à l'heure, il y a le fond et la forme. Le fond, c'est ce que je vais vous expliquer de ces versets, chapitre 11. La forme, c'est l'exemple que Paul a pris pour faire passer le message. Comme moi, je prends des exemples, des sketchs, des choses comme ça, pour vous faire passer le message. Mais le sketch, bon, ça peut être un autre sketch, c'est pareil. Ça peut être une autre époque, je prends un autre sketch, ça dépend si le sketch ou l'image vous parle. À l'époque de Paul, il faut savoir juste une chose, il voulait illustrer son propos, donc ce que je vais vous expliquer, par le coup des prostituées, qui à l'époque se rasaient. Est-ce qu'aujourd'hui les prostituées se rasent au Bois de Boulogne? Vous êtes allé au Bois de Boulogne? Non? C'est pas de tasse de thé? Il vaut mieux pas y aller. Parce qu'il n'y a pas que des prostituées, il y a aussi des dealers. Mais à l'époque, ils se rasaient. Aujourd'hui, ils ne se rasent pas. Donc si vous dites aujourd'hui, il faut porter une chevelure, ça ne veut rien dire. Oui. Par contre, si aujourd'hui j'étais Paul, tout au moins si j'illustrais Paul, je prendrais l'histoire de l'Alliance. Oui. Parce qu'aujourd'hui, des hommes, des femmes qui veulent avoir une union libre, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent l'Alliance. Oui. Parce que l'Alliance, vous regardez, ah oui, il est pris avec quelqu'un, lui il n'est pas pris, ok, donc je peux draguer, etc. Non, mais c'est ça. Ok? Voilà. Donc, Paul. S'il était là aujourd'hui, il prendrait l'alliance, pas les cheveux, vous voyez, pas le voile, je veux dire, les cheveux sont encore autre chose, pas le voile, vous voyez. Donc ça, c'est l'exemple. Mais oublions tout le voile et compagnie et insistons sur le fond, ok? On y va? C'est parti? Vous attachez vos ceintures? On y va. Première affirmation, verset 18. Si Ish, alors Isha. Waouh! C'est quoi ça, Ishisha? Petite explication. Si vous prenez dans Genèse chapitre 1 et 2, hein, il faut parler hébreu. Hein, ouais, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Hein. Alors, en hébreu, quand vous lisez Genèse 1 et 2, il est marqué Dieu créa l'homme. Et pour l'homme, il dit que, en hébreu, c'est Ish. Ish ou ISCH, bon, c'est des. Enfin, c'est Ish. Ok? Genèse 1 et 2. Est-ce qu'il explique comment il créa la femme? Oui? Comment elle s'appelle? Isha. Donc la femme s'appelle Isha. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Dans l'étymologie, il y a Ish qui est lié aussi à la femme. Ish, ça veut dire quoi? Homme. Donc une femme, c'est... Non, c'est un homme. Non, il faut rester logique. Vous voyez, on est dans les maths, là. On est dans la logique. Non, mais je suis désolé. Hein, on reste simple. Hein. On reste sur le plancher des vaches. Oui, mais... oui, je vous ai dit, je vais aller vous choquer. Je suis désolé. Pourquoi? Parce que, mais oui, parce que ce qu'il faut comprendre, et là je ne suis pas à l'éducation nationale, rassurez-vous, c'est qu'il y a une théorie du genre. Eh oui, le mot qui blesse là, théorie du genre. Vous voyez, ça n'a pas été inventé par l'éducation nationale, le genre. Le genre, ça existe parce que Dieu l'a créé. Eh oui, c'est pas parce que les hommes l'utilisent mal, hein, que c'est faux. Simplement parce que Dieu a créé des choses et les hommes ne font qu'emprunter des choses à Dieu. Le genre, c'est quoi? Dans la création, il y a deux genres. Il y a le genre masculin et le genre féminin. Ok? Féminin. Le sexe, parce qu'on pense tous au sexe, masculin, féminin. Ce n'est qu'un tout petit élément du genre. Dans la nature, dans la création, il y a le genre masculin et le genre féminin. Pour ceux qui veulent un peu mieux aborder ces questions-là, je vous recommande à 1000% les livres de Leon Payne, qui a prié sur ces livres pendant des années pour les écrire, parce que elle a voulu transmettre un mémorandum de sa vie sur ces questions-là, parce qu'elle était spécialisée pour sortir des homosexuels de leur homosexualité. C'est lui. Il a eu beaucoup d'appels au meurtre, enfin de meurtre, de mise à mort, ouais, pour ses livres. parce que voilà, la société ne veut pas accepter qu'on puisse guérir des homosexuels, mais elle, elle l'a fait et elle continue à le faire par son ministère. Et elle a beaucoup écrit sur le masculin féminin. Et C.S. Lewis, avant elle, parce qu'elle a été administratrice de C.S. Lewis, a beaucoup écrit là-dessus. Donc, je ne peux pas du tout aborder ces questions ce matin. Mais ça rejoint ça. La femme est également homme, au sens de genre. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas tirée de la poussière comme l'homme, elle est tirée du côté de l'homme. Donc elle fait partie de l'homme, de l'humanité. Vous voyez, homme non pas en tant que sexe, mais en tant que... L'homme, en tant que créature, donc là c'est Adam. Adam. Sachez que Dieu n'a jamais donné le nom de Ève à la femme, c'est Adam qui lui a donné. Donc j'écris pas Ève parce que c'est pas du tout un nom que Dieu a donné. Alors Ève, après, s'est utilisée dans l'idolâtrie pour adorer la femme. Donc c'est Adam. La femme, c'est un homme avec un A derrière, on ne sait pas très bien ce que c'est, l'étymologie du A, A-C-H d'ailleurs, ou A-S-H, Isha. En tout cas, elle est vis-à-vis. Elle est vis-à-vis. Elle n'est pas autre qu'un homme. Si un homme sait prendre des décisions, une femme sait prendre des décisions aussi. Voyez, sauf qu'il y a une polarité différente. Il y a une complémentarité. Et Dieu l'a voulu dans le cas des opposés, justement. Et on va le voir tout à l'heure. Alors, une fois que j'ai fait ce préambule, il devrait être beaucoup plus long que ça, mais pour vous donner une idée, on revient à notre affirmation de Paul dans Corinthiens. Si Ish, donc si l'homme, alors la femme. Relisez ça dans votre Bible 11.8. Notez 11.8 et relisez. Vous allez découvrir ça dans le fond. En enlevant la forme, le voile et tout compagnie, vous allez trouver ça. Si Ish, si l'homme, alors la femme. Si pas Ish, si pas Isha, alors pas Ish. Hein ? Ça veut dire quoi ? Si pas la femme, alors pas l'homme. Ok. Voyez-vous ? Ils sont, bah c'est les vis-à-vis, il a été tiré de l'homme. Donc elle a été tirée de l'homme. Donc il y a une relation de dépendance. Ok ? Alors, attention, ça va se compliquer tout en étant simple. On va prendre un autre verset, qui est le verset 12, qui est une autre affirmation. L'affirmation, c'est si pas Isha, alors pas Ish. Et si on contrepose, si Ish, alors Isha. Vous voyez, on rejoint ça, ça rejoint ça. C'est la même chose. Ok ? On est là dans quoi ? Bah, dans une équivalence. Donc la contraposée du 12 est l'affirmation du 8. Vous voyez ? Est-ce que pour l'instant, c'est pas trop compliqué ? Hein ? Bon. Pas trop. Alors on recommence. Non, parce que c'est tellement simple que ce serait dommage que personne ne comprenne. Enfin, que tout le monde ne suive pas. Si l'homme, alors la femme. Si l'homme, alors la femme. Donc si pas la femme, alors pas l'homme. Verset 11. Si. C'est pas moi qui disais, c'est Paul, hein, je suis désolé. Hein. Vous adressez à Paul si vous ne comprenez pas. Mais c'est un passage que j'essaie de vous expliquer comment il faut le comprendre. Donc si pas la femme, alors pas l'homme. Mais la même vérité, contreposée, parce que c'est, vous pouvez le dire, si l'homme, alors pas la femme. Et vous voyez que c'est exactement la même chose que ça. Non ? C'est compliqué à comprendre ça, que c'est la même chose ? Bon. Ok. Donc, la contraposée de 12 est l'affirmation du 8. C'est pour ça que j'ai mis une flèche ici. Vous voyez, c'est écrit la même chose. Mais c'est simplement par la logique qu'on le déduit. Et ça, c'est Paul qui l'écrit dans le verset 8 à 12. Donc on a une équivalence parfaite entre l'homme et la femme. Hello ? Vous dites amen ? C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Équivalence parfaite. Dis-le à ton voisin. Équivalence parfaite entre l'homme et la femme. Vous voyez ? Équivalence parfaite. C'est-à-dire, il n'y a pas de supériorité, c'est ça que ça veut dire. Hein, équivalence parfaite, ça veut dire l'homme n'est pas supérieur à la femme et la femme n'est pas supérieure à l'homme. Est-ce qu'on est d'accord ou pas là-dessus? Non pas avec moi, avec la parole de Dieu. Vous voyez, c'est simple à comprendre des passages difficiles avec la logique. Ok? Est-ce que je peux continuer? Tout le monde suit pour l'instant? Ok. Ça se complique un peu tout simplement parce qu'il y a une autre vérité. C'est comme la doctrine de l'amour. Tout est vrai. Et il faut essayer d'intégrer toutes les vérités. L'autre verset qui est vrai, c'est le verset qui est en sandwich là. C'est le verset 11. Alors, oui, là j'ai mis une autre vérité. La contraposée est affirmée formellement dans 12. C'est-à-dire que Paul, voilà, là la contraposée, on l'a déduite. D'accord? Mais ici, il l'affirme. Vous voyez? C'est pour vous dire que les contraposés, Paul les utilise. Vous voyez? Quand vous lisez, en fait, vous lisez ici des contraposés. Et ça, c'est Paul qui l'écrit, c'est la parole de Dieu. Ouais. C'est pour montrer que cette logique, Dieu parle en logique. Dieu est logique. Dieu est raisonnable. Il n'est pas contre la raison. C'est nous qui pensons que la foi est contre la raison. Ça, c'est une erreur monumentale. Non, Dieu, la divina ratio, la raison divine, elle existe et elle est manifestée ici. Donc la contraposée, elle est une affirmation. Là, si là on l'a contraposée, ici c'est une affirmation. Si là on l'a contraposée, ici c'est une affirmation. Donc vous voyez, la boucle est bouclée et l'homme et la femme, en tant qu'être humain, sont équivalents. D'ailleurs, ça se voit ici. Dieu a créé l'homme. Il n'est pas créé la femme à partir de la poussière. Il a créé à partir d'Adam, à partir de Ish. Il a simplement donné un aspect féminin au côté masculin. Ça va? Je peux continuer? Alors, verset 11, qui se trouve en sandwich, c'est une autre affirmation. Et cette affirmation est dit, si Isha, alors Ish. Vous voyez, ici, c'est si Isha, alors Isha, et là, si Isha, alors Ish. Si on contrepose, si pas Isha, alors si pas Ish, alors pas Isha. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelqu'un qui est très fort en logique là, qui a compris, ça m'évite. Pardon? L'un peut le faire, non, c'est plus fort que ça. Cette affirmation là, en langage mathématique, ça s'appelle comment? La réciproque. Hein, c'est la réciproque. Là, on est dans la réciproque. Vous voyez, alors, si Ish, alors Isha, vous prenez le Isha, vous le mettez là. Celui-là, vous le mettez là. Et celui-là, vous le mettez là. Ça s'appelle une réciproque. Hein? Si Sylviane est assis à côté de Charles, Charles est assis à côté de Sylviane. Vous voyez, c'est simple, les mathématiques. Il faut simplement le ramener à des choses concrètes. Hein? Si Charles est assis à côté de Sylviane, Sylviane est à côté de Charles. C'est une réciproque, c'est tout. C'est réciproque. C'est vrai dans les deux sens. Ouais, c'est pareil. C'est pas tout à fait pareil, c'est une réciproque. Hein? Parce que je parle de Sylviane au lieu de parler de Charles, alors que là-bas, je parle de Charles à côté de Sylviane. Ouais, c'est tout. Donc ici, on est dans une réciproque. Et c'est toujours la parole de Dieu, hein, c'est pas moi, c'est pas des choses que je construis. Ce que j'ai construit, c'est le rouge, mais pas le noir. Le noir, c'est l'affirmation de la parole. Mais le rouge, c'est vrai aussi, absolument. Et on comprend dans le rouge que si pas l'homme, pas la femme. Tu vois, c'est logique, hein, Marie-France? C'est logique. Si pas l'homme, pas la femme. Voilà. Alors que là, on ne le voit pas très bien. Si Isha, alors Ish. Bon, si Isha, alors Ish. Mais là, il dit, si pas l'homme, pas la femme. Et c'est de là, voyez-vous, c'est de cette logique toute bête que Paul, il déduit l'enseignement. Donc la réciproque est vraie, c'est l'affirmation du verset 11, que Ish est premier. C'est cette logique-là que vient la primauté de l'homme sur la femme. Non pas en termes de supériorité, puisqu'ils sont équivalents, mais en termes de tête et de corps. Tête, ne voulons pas dire supérieure. Sarah, tête veut dire? Tête veut dire, Rémi? Capite, la tête. C'est-à-dire quoi la tête? Quand dans ce contexte-là, la Bible parle de tête, il ne parle pas de supériorité, il parle de quoi? Pardon? D'autorité? Deux, j'écoute vos réponses. Deux, protection, oui. Deux, tête. Pardon ? Responsabilité, deux, direction, d'ordre, deux. Oui, tout ce que vous dites est vrai. Et je confirme. Tête, ça veut dire qu'il faut une tête. Par contre, elle va tomber. Ah bah, faut accepter que si on a une tête, on tombe. Hein. Eh oui. Non, mais je veux dire, c'est lié à la responsabilité. Je veux dire, c'est normal que c'est la tête qui tombe. Ok ? Quand il y a eu la chute, est-ce que Dieu est allé voir Ève ? Il est d'abord allé voir Adam. Eh oui. C'est à Adam qu'il avait donné la responsabilité du jardin. Il a dit, voilà, je te donne cet ordre. Je te mets à côté de toi une aide. Mais si toi, tu laisses ton aide faire n'importe quoi, c'est ta responsabilité. C'est à l'homme de faire le ménage, là, l'ordre. C'est à l'homme d'être la direction. C'est à l'homme d'être le leader. C'est à l'homme de prendre ses responsabilités. C'est à l'homme d'assumer. Il faut un ordre. Alors ? Donc c'est le renvoi à l'ordre, mais pas à la supériorité. Vous savez, le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse du reset dans notre cerveau, là. Faites du reset. Vous le faites avec votre ordinateur. Vous le savez maintenant que quand ça ne marche pas, n'appelez pas votre informaticien, faites du reset. Partout, c'est comme ça. Il faut mettre à zéro. Je suis bien placé. J'ai travaillé toute ma vie à aérospatiale. On a fait Ariane 4. On est à Ariane 5. Ariane 4, c'est une fusée qui marchait du tonnerre. Du tonnerre. On était les premiers au monde. Il n'y a aucune fusée. On en a fait 150. Aucune fusée qui n'a loupé. On appuyait sur le bouton, paf. Les Américains, ils faisaient une gueule comme ça. Les Russes faisaient une gueule comme ça. Voilà, on était, en termes de fiabilité, 100%. Bon, on a voulu envoyer des hommes là-haut. On a fait la navette spatiale qui a avorté parce que les Allemands n'étaient pas d'accord. On a failli faire une navette. Mais bon, il n'y avait pas assez d'argent. Donc, on s'est rabattu sur Ariane 5. Je vous donne l'expérience vécue. Ariane 5. Ça coûte des milliards, hein, relancer une fusée. On a fait Ariane 5. Et le CNES, c'est un peu pareil, le CNES, Centre d'études nationales spatiales, est responsable du budget. Donc, voilà, il fallait payer. Et à un moment donné, arrivé au logiciel de calcul de la trajectoire, ils ont dit, attends, une fusée qui marche à 100%, fiabilité 100%, on ne change rien aux équipes qui gagnent. Ok ? C'est connu ça dans le monde du truc. Mais ils ont dit, on ne change rien au logiciel. Les informaticiens, arrêtez. Chaque fois que vous touchez quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. On prend le même logiciel et on le met sur Ariane 5. Économie, fiabilité, on a gagné. Alors imaginez. Les ingénieurs et tout l'aérospatial étaient sûrs que la première Ariane 5 allait être une réussite à 100%. Donc ils ont envoyé une convocation. Ils n'ont jamais fait ça. Mais ils l'ont plus jamais fait après. Ils ont envoyé une convocation tout le personnel. Au bureau, là, on était 3000. Tout le personnel, on est tous venus regarder le démarrage d'Ariane 5. Okay. Tous, dans le grand hangar, dans le hall, 3000 personnes. Okay. Et les bouteilles de champagne, ils étaient tous là. Hein. Ah oui, ils étaient remplis. Hein. On voyait les fournisseurs qui venaient là. Okay. Paf, on allume. Waouh, super, étonnant. Alors, 3000 personnes, vous voyez, on entendait une mouche voler dans le hangar. Rien. Tout le monde était là. Regardez. 8 secondes après, plus rien. Une mouche qui vole. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas. Personne ne savait. Personne. Et quelques temps après, plus d'image. Quelqu'un qui s'avance au micro et il a explosé. Imaginez hein, l'expérience. J'en ai encore la chair de poule. Explosé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Encore un coup des informaticiens. C'est que ils avaient oublié une chose. C'est qu'il est monté un peu plus vite qu'Ariane 4. Donc l'acquisition des données était plus rapide et le logiciel est saturé. Et quand il s'est saturé, il a dit « je comprends rien », il l'a mis à l'horizontale. Du coup, la fusée devenait un truc à l'horizontale et s'est cassée en deux et tout est tombé. Juste une question de logiciel. Ils auraient dû faire reset. Tuc, reset. C'est pour ça que je parlais de reset. Parfois, on passe à l'horizontale. Quand on est un chrétien, on est super, super encouragé. Puis paf, d'un seul coup, à l'horizontale, c'est fait mal. Faire comme ça, tac, on se casse. C'est une image. Mais c'est vrai. Faites reset dans votre vie. Faites le TQP. Désolé, des formations professionnelles. Mais oui, il faut se purifier. TQP, c'est du reset. Il faut faire reset. Reset, reset. Dis à ton voisin, fais reset. Il faut faire reset. Dans votre pensée, dans vos pensées, dans tout. Voilà, il faut renouveler. L'apôtre Paul, dans Romains 12, il dit renouveler votre intelligence. Et là, on renouvelle notre intelligence. Alors, je ne sais plus où j'en étais, d'ailleurs. Voilà. Donc, si païche, alors païcha. Ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur, mais l'homme est la tête. C'est-à-dire qu'il a plus de responsabilités. C'est-à-dire qu'il est celui qui doit d'abord écouter Dieu, avant même la femme. C'est pour ça que ça ne s'applique pas à n'importe quel chrétien. Ça ne s'applique pas à des couples ordinaires. Ce n'est pas possible. Puisqu'il faut que l'homme il soit chrétien. Et pas seulement chrétien enfant, mais chrétien adulte. Vous voyez, il y a beaucoup de si là. Hein, chrétien adulte, qui connaissent la parole. Je dis bien qu'ils connaissent la parole. Parce que l'homme est très. La femme, pardon. Elle est très très bonne dans l'intuition. Elle sent les choses. Elle ressent les choses. Elle a une perception synthétique, globale et tout ça. C'est super. Mais l'analyse, où est-ce qu'elle est ? Elle est parfois défaillante, donc elle a besoin de recours à quelqu'un qui fasse de l'analyse, qui fasse de la synthèse, l'analyse, synthèse. C'est quoi ça ? Ben, c'est notre cerveau. Le cerveau, il fonctionne comme ça. Cerveau gauche, cerveau droit, c'est analyse, synthèse. Et pour ça, il faut avoir quelqu'un à côté. Et dans un couple, il faut que ça fonctionne comme ça. Ok ? Je pourrais vous en parler des heures de ça, hein, parce que ça fait l'objet d'une réflexion de ma part en disant « Mais pourquoi les chrétiens et pourquoi les couples ne s'en sortent pas ?» Mais c'est à cause de ça. Parce qu'ils ont des idées approchées, des idées de préjugés, que l'homme est supérieur parce qu'il est la tête. Non ! Il n'est pas supérieur, un. Deux, il est responsable de ce qui se passe dans son couple quand il est chrétien. Quand il n'est pas chrétien, c'est d'un autre registre et il répondra autrement à Dieu. Donc il y a un équivalence parfaite entre Ish et Isha, aucune supériorité, et deuxièmement, prééminence de la tête de Ish sur Isha dans l'organisation du couple. Amen. Je vais terminer. Donc vous voyez, ces versets-là sont très simples à comprendre. L'idée du foulard, vous oubliez, parce que ça ne s'adresse pas à nous. Hein, c'est plutôt l'alliance. Celui qui enlève l'alliance, il montre qu'il n'est pas sous l'autorité et qu'il fait n'importe quoi, qu'il fait de l'union libre. Et qui, voilà. Okay, donc là, ça a du sens. Donc vous remplacez le voile par l'alliance. Et par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est tout. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris le passage de Paul. Conclusion. On constate qu'il y a une équivalence entre deux opposés. Encore que femmes et hommes ne sont pas opposés, mais ils sont opposés dans leur nature de perception. Perception analytique, perception synthétique. Trouver, perdre, opposé. Aimer, obéir, opposé. Homme, femme, opposé. Subjectivité, objectivité, opposé. Imagination, rationalité, opposé. Cerveau gauche, analytique, cerveau droit, synthétique, etc., 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 etc. Toute la création de Dieu est selon ce modèle. Ces opposés doivent exister, fonctionner en équilibre harmonieux. C'est là la difficulté. Il faut que l'équilibre soit parfait. C'est ce que Christian Schwartz, dans le livre que je vous ai montré, je ne l'ai pas ramené, sur la nouvelle expérience de Dieu, explique. Alors, on appelle ça la théonomie. Théo, c'est Dieu, et nomie, c'est la loi. La loi de Dieu, c'est du grec, hein, théonomie, la loi de Dieu qui a une bipolarité créatrice. C'est-à-dire, ça permet ça de créer. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas créer. La créativité de Dieu a été mise dans la création. Et c'est grâce à ça qu'on peut créer, que l'homme peut créer. Il peut créer des fusées, comme j'ai fait, peut créer la médecine, comme fait Irina, peut créer dans tous les domaines où vous êtes, etc. On peut créer des choses, vous voyez, grâce à ça. Sinon, on ne pourrait pas créer. impossible de créer sans ça, sans ces opposés. Et en devenir conscient, c'est faire l'expérience de Dieu, pardon, en tant que créateur. Cette expérience nous aide à nous équilibrer et vivre une foi mature. C'est justement ça qui nous permet de vivre une foi mature. La foi magico-religieuse, c'est justement c'est de tout croire sans le passer au filtre de notre logique. Mais notre chair a tendance à pousser les opposés aux extrêmes. L'ennemi nous y pousse d'ailleurs, aux extrêmes. Et c'est la stratégie privilégiée pour nous faire chuter. Okay. Les francs-maçons, ils ont ce logo, Ordo ab Chao. C'est-à-dire d'abord le chaos et ensuite l'ordre. Toujours détruire pour les opposer, c'est comme ça. Ou Solvay Coagula, c'est pareil. Nous ne pouvons demeurer en équilibre que si nous marchons par l'esprit, car l'esprit a les tendances contraires à la chair, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est fait pour. On ne peut pas suivre Dieu naturellement. C'est impossible. On tombe dans la religion. OK. Mais pas dans la relation. OK. Parce que la relation, c'est uniquement, en vivant, cet équilibre des opposés. Alors, la théonomie, donc la loi de Dieu bipolaire, dans la bipolarité, comment elle fonctionne entre deux opposés, quels sont les dangers, quels sont les remèdes. C'est important. Eh bien, c'est ça. Il faut devenir équilibriste. Si vous ne devenez pas équilibriste, vous ne pouvez pas avoir une foi adulte. Pourquoi ? Parce qu'il y a un pôle de droite, un pôle de gauche, et il faut marcher dans l'équilibre par le Saint-Esprit. Il y a trouver et perdre, il faut les vivre en même temps. Il y a aimer et obéir en même temps. Il y a Ish et Isha en même temps, dans un couple chrétien adulte. C'est exactement la même chose que Dieu qui est à la fois amour et justice. Voilà. Dieu est à la fois amour et justice. Il a en même temps aimé les hommes et en même temps il a donné son Fils. Parce que le péché nécessitait une justice qui n'était réparable que par Jésus. De même, dans la création, il a placé deux pôles opposés et cela la rend créatrice en elle-même. C'est pour ça qu'on peut co-créer. La femme peut donner naissance à l'enfant, en étant co-créateur, grâce à cette bipolarité que Dieu a placée dans la création qu'on peut utiliser. Mais ceci à la gloire de Dieu. C'est pour ça que c'est adressé à des chrétiens qui rendent gloire à Dieu. Ils peuvent la vivre dans sa plénitude. Je termine rapidement. L'équilibre ne peut se trouver que en Christ et par le Saint-Esprit, uniquement. C'est pour ça que cet équilibre n'est accessible qu'à des chrétiens qui ont une relation avec Dieu. Christ est au centre, tout est centré sur lui. Il y a un pôle amour de Dieu, qui est le sentiment d'acceptation. On a tous besoin d'un sentiment d'acceptation. Et de l'autre côté, il y a l'obéissance à la loi de Dieu. Se comporter selon la loi du royaume, selon la loi de Dieu. Et les deux doivent être vécus en harmonie. Les dérives de la chair, eh oui, ça nous attend tous, on est tous dans ces dérives. Ce qu'il faut, c'est en prendre conscience. C'est qu'à gauche, parce que l'homme charnel ne peut faire que déséquilibrer ce système-là, à gauche, c'est le mysticisme, c'est le spiritualisme, c'est la licence, c'est le gnosticisme, c'est l'ésotérisme, c'est tout ça. Okay, c'est les Corinthiens. Si vous lisez les Corinthiens, ils sont tombés là-dedans. Et Paul s'insurge. Non, mais c'est pas possible. Vous qui avez connu Jésus-Christ, voilà, vous en êtes tombés. Hein, il y a même qui prennent la femme de leur voisin à l'intérieur de la même église. Quoi. C'est Sérinthe. Hein, on parlera une autre fois. Les Médicis aussi qui ont créé la cabale chrétienne, la magie, l'ésotérisme. Sur le côté droit, le patinage qu'on fait dans la chair, c'est aller vers le rationalisme, l'intellectualisme, l'institutionnalisme, l'institution, l'Église catholique romaine fantastique qui règne sur le monde, etc. Voilà, on pense à l'institution. Hein. Mais c'est aussi l'Église évangélique, machin, etc. Voilà, c'est l'institution. Non, le légalisme, l'ascétisme, tout ça, c'est là-dedans. Okay, c'est les Galates. Les Galates, ah oui, si vous ne faites pas circoncire, vous ne pouvez pas vivre la plénitude de la foi. Il faut se faire circoncire. Voilà, c'est les enseignements pour obtenir la faveur de Dieu. C'est les Pélagiens, les pharisiens, les traditionnalistes religieux qui sont dans les rites et les mérites. Si on vient à Ishe Isha, Eh bien, l'application est simple. Sur le côté gauche, la femme va essayer de rentrer dans le féminisme. OK ? Séduction, contrôle, rébellion. La femme veut être autonome. Féminisme. On est dans ce siècle du féminisme. Imposer son indépendance en s'opposant aux lois arbitraires, enfin soi-disant arbitraires. Elle déclare qu'elles sont arbitraires. Okay. Ce qui fait qu'elle est libre, elle légitime en fait sa rébellion. Elles sont arbitraires, elles ne s'adressent pas à moi. Donc par la ruse, l'occulte, etc. Du côté droit, du côté de l'homme, il a tendance au rationalisme, au machisme, à la dominance, à la maîtrise, au pouvoir. Et l'homme veut être hétéronome. C'est-à-dire que lui dit, moi je ne suis pas dans l'intuition, moi je cherche une loi, comme ça je me protège. Hein, comme il est aux manettes du pouvoir, il décide des lois, il dit, ah, c'est pas moi, c'est la loi qui dit ça. Okay, donc hop, tu appliques, tu obéis et tu te soumets. C'est astucieux. Hein, c'est ce qu'on appelle la dominance de l'homme. Imposer sa suprématie par des lois qui l'érigent par la force. Mais Dieu n'a pas demandé ça. Dieu a demandé un équilibre entre Ish et Isha. Pour rester en équilibre, il faut toujours rester dépendant de Dieu, de Jésus-Christ et de son esprit. Et les deux pôles opposés doivent rester dans l'intersoumission réciproque. Éphésiens 5, 20, au verset 19, il dit « Soyez soumis les uns aux autres ». Et je vous donne un exemple, la femme soumise à l'homme. Mais c'est un exemple, une exemplification du principe général de soumission réciproque. Et fonctionner dans leur spécificité, Ish, c'est d'entreprendre par l'amour, et Isha, c'est de répondre par l'obéissance. Amen. Le plan d'ennemi, si vous lisez la Bible, vous allez le découvrir, le plan d'ennemi, c'est de pousser au féminisme ou de pousser au machisme. Et en fin de compte, ça c'est dans les sociétés secrètes que vous arrivez au plus haut niveau de la divinisation, c'est le mercure androgyne, il se fait Dieu. Voilà. Et on unit à l'intérieur de soi les deux opposés. Ça, c'est le plan de l'ennemi et c'est le plan sur la France en particulier qui est visé par cette stratégie. Donc ne nous laissons pas berner par l'ennemi. Seule la dépendance à Dieu nous permettra de vivre dans les exigences du royaume. L'amour de Dieu nous gardera en Jésus-Christ, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et Philippiens 4,6 résume en disant « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Seigneur, nous te prions afin que tu nous aides à vivre cette foi de maturité, Seigneur, dans la dimension de ta parole, Seigneur. Que nous n'ayons pas peur, Seigneur, de sortir des schémas qui nous ont été imposés, que ce soit par la culture, par la famille, par nous-mêmes. Seigneur, ce que nous voulons, c'est devenir des disciples matures et des amis de Dieu, afin que nous puissions vivre la plénitude de ton royaume et de la rédemption, Seigneur, dans laquelle tu as placé l'homme et la femme comme des vis-à-vis et comme, Seigneur, des lumières. Et je te remercie, Seigneur, pour ce mariage que nous allons fêter samedi prochain, Seigneur, pour que Amélie et David puissent rentrer dans cette dimension prophétique. Seigneur, afin que des hommes et des femmes ici, dans cette église, puissent le vivre et modéliser, Seigneur, cette dimension au nom de Jésus. Amen.